Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie Jean, co-auteure du rapport LUD, ancienne vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Anne-Marie Jean, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, un mot sur ce rapport LUD, Logique Urbaine Durable 2025, que vous avez copiloté avec Anne-Marie Idrac, qui est ancienne députée et aujourd'hui haute représentante du gouvernement français pour le développement des véhicules autonomes et présidente de France Logistique. Ce rapport constitue aujourd'hui l'un des documents de référence sur l'avenir de la logistique urbaine en France, remis au gouvernement au début de cette année 2026. Il propose une feuille de route pour mieux organiser les flux de marchandises dans les villes, réduire les émissions, préserver le foncier logistique et renforcer la coopération entre collectivités et acteurs économiques. J'ai bon jusque-là ? Ça va ?
Bravo de ce résumé. Ah,
merci beaucoup. Dans ce rapport, vous expliquez que la logistique urbaine ne peut plus être considérée comme un simple sujet technique. Pourquoi est-elle aujourd'hui devenue un enjeu stratégique pour l'avenir des villes et la qualité de vie des habitants ?
Effectivement, j'ai la conviction, et on l'a partagé avec l'ensemble des acteurs que nous avons auditionnés dans le cadre de ce travail que nous avons mené sur le second semestre 2025. On a été missionné par le gouvernement, ministère des Transports, ministère de l'Économie, au mois de juillet, avec la demande de faire présenter un rapport pour la fin du mois de décembre. Donc, ouais, c'est un travail que nous avons mené tambour battant, en auditionnant un maximum d'acteurs du secteur, tant acteurs publics qu'acteurs privés. Également, on a essayé d'avoir des voix de représentant les citoyens consommateurs également. Alors, pourquoi, selon nous, c'est un sujet stratégique ? C'est parce qu'en fait, il touche à énormément de sujets pour lesquels il ne fait aucun doute qu'il soit stratégique. D'abord, le fonctionnement économique, l'efficacité économique et la viabilité économique. Les questions du foncier, vous venez de l'énoncer, qui sont de plus en plus un sujet tendu au niveau des villes. La rareté du foncier est de plus en plus identifiée comme un enjeu extrêmement important. Des questions de qualité de l'air, des questions de bruit, des questions d'occupation de l'espace urbain, des questions de commande publique. Les achats publics ont aussi un rôle sur le choix des systèmes de transport. Bref, ça touche à toute une série de politiques qui, elles, sont toutes très clairement identifiées comme stratégiques. Donc voilà, la logistique urbaine étant à la croisée de tout cela, eh bien, elle est stratégique, elle aussi, et elle mérite d'être prise en compte en tant que telle.
Vous constatez des progrès depuis 2021, mais aussi de fortes disparités entre territoires. Est-ce que vous avez le sentiment que les collectivités ont réellement intégré la logistique urbaine dans leur politique publique, ou est-ce que nous sommes encore dans une phase de prise de conscience ?
Je crains qu'on soit encore plus tôt dans le deuxième terme de votre question, encore dans une phase de prise de conscience et d'expérimentation, mais quelque part c'est normal. Et malheureusement, les choses prennent un peu de temps. Pendant très longtemps, les questions de logistique urbaine ont été, de logistique en général, ont été laissées aux acteurs économiques en disant que c'était une question d'affaires d'acteurs privés, que ça fonctionne. Et ma foi, la logistique, ça tourne en France. On ne va pas non plus dire le contraire. Notre économie tourne, nos villes sont approvisionnées. Quand vous allez dans votre magasin favori, je pense qu'en général, vous trouvez ce que vous cherchez. Quand vous allez dans votre bistrot, il a quelque chose à vous servir à boire, ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Simplement, on voit bien qu'il y a des points de friction qui sont de plus en plus présents et qu'il faut qu'on y prête garde collectivement pour que les points de friction ne se crispent pas et qu'on arrive à les résoudre ensemble. Et on a des enjeux de plus en plus prégnants, notamment autour des questions d'environnement et de qualité de l'air, de questions de sécurité également. Et donc ces sujets-là, il faut vraiment s'en emparer. Donc, pendant longtemps, ça a été complètement un sujet aux acteurs privés. Les acteurs publics ont commencé à s'y intéresser depuis une dizaine d'années, je dirais, et ça monte doucement. Donc depuis notre premier rapport fait en 2021, on a vu un réel progrès. Il y a aujourd'hui 61 collectivités qui sont engagées dans des démarches très structurées d'association de leurs acteurs sur la logistique urbaine, de rédaction de chartes pour des prises de décision. Une soixantaine de collectivités, c'est pas rien. En même temps, il y en a nettement plus en France. Donc voilà, on est encore au milieu du chemin, on est, je crois, dans un bon sens, mais il faut pas relâcher. Et effectivement, à chaque changement aussi électoral, des nouvelles équipes arrivent. Donc, il faut que les nouvelles équipes s'acclimatent aussi, prennent en compte ces enjeux.
la logistique fonctionne, mais il faut faire en sorte, et votre rapport y contribue, à ce que ça continue à bien fonctionner.
Tout à fait.
C'est ça qui est important. Ici, à Drive to Zero, on parle beaucoup d'électrification des flottes. Pourtant, votre rapport explique qu'il faut aussi repenser l'organisation même des flux, des plateformes et du dernier kilomètre. Pourquoi cette transformation est-elle tout aussi importante que le verdissement des véhicules dont on parle beaucoup aussi?
Tout à fait. Alors, la question d'une logistique urbaine durable, il y a plusieurs termes dedans. Il y a l'organisation logistique et puis il y a la notion de durabilité dans toutes les acceptions du terme. La question de la décarbonation en est une et elle est extrêmement importante, mais ça n'est pas la seule. Il y a la question de la décarbonation pour l'impact sur le climat, les émissions de CO2. Il y a aussi la question des autres émissions polluantes qui est aussi un sujet et que la décarbonation vient résoudre, mais seulement en partie. Enfin, plutôt l'électrification des flottes vient résoudre seulement en partie. Et il y a tous les autres sujets d'organisation, la gestion de l'espace urbain, l'encombrement urbain. Il est le même pour un véhicule électrique et pour un véhicule pas électrique. Donc, si on a un problème de congestion urbaine, décarboner, ça résout rien. C'est bien pour le climat, c'est bien pour le bruit au passage, mais ça résout rien sur l'encombrement de l'espace urbain. Si on a des questions de place de livraison à gérer, de définition du bon espace, de la bonne durée, que le véhicule soit électrique ou pas, au moment où il livre, il a besoin de s'arrêter. Enfin, voilà. Donc on voit bien qu'il y a toute une série de sujets qui ne sont pas liés directement à la nature du véhicule et au type de motorisation qu'il utilise, mais qui sont vraiment des sujets en fait sur toute la chaîne, depuis les entrepôt jusqu'au destinataire final, et y compris les retours d'ailleurs.
C'est pour ça aussi que vous appelez à renforcer le dialogue entre collectivités, logisticiens, transporteurs, donneurs d'ordre. Cette coopération reste-t-elle encore difficile alors que tous les acteurs partagent finalement les mêmes enjeux de fluidité et de décarbonation ?
J'ai pas l'impression qu'elle soit difficile dès lors qu'elle existe. Mais le tout, c'est de la faire exister.
D'accord.
C'est-à-dire que dans la prise en compte par les acteurs publics, il y a déjà le fait de s'intéresser à la logistique urbaine, et de coordonner les différents élus et différents services qui s'en chargent au sein d'une collectivité. Et c'est pas forcément chose simple. Hein. Ouais. Toutes les entreprises ont leur silo, donc voilà, on va pas jeter la pierre spécifiquement aux collectivités, mais les collectivités ont les leurs aussi. Donc faire travailler toutes les équipes ensemble, c'est pas simple. Mais rien que faire travailler les équipes ensemble au sein de la collectivité, ça suffit pas. Il faut aussi parler avec les acteurs externes. Donc parfois, c'est ça qui peut paraître un peu long, un peu lourd. C'est déjà compliqué de discuter en interne. Donc s'il faut en plus qu'on se mette à voir des tas de gens, on va pas s'en sortir. Si, on va s'en sortir. Et en fait, il y a que comme ça qu'on s'en sort. Et il faut commencer à le faire pour y arriver. Et en tout cas, le constat que j'ai fait à Strasbourg en animant ces instances-là et le retour que j'ai eu lors de toutes les auditions qu'on a faites pour le rapport, c'est que partout où on le fait, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faut commencer par s'écouter, par comprendre les enjeux des uns et des autres. Parfois, les acteurs publics ont des enjeux extrêmement forts que les acteurs privés n'identifient pas et qui comprennent mieux quand on se parle. Et inversement, voilà. Donc, se parler, se concerter, s'écouter régulièrement, c'est extrêmement important. J'insiste sur le régulièrement parce qu'il suffit pas d'avoir fait une fois les auditions des gens pour se dire « c'est bon, j'ai tout compris et maintenant j'écris mon plan d'action pour les 10 prochaines années et hardi petit, on avance ouais. ». Non, les choses changent très très vite. Il faut se voir régulièrement, se concerter régulièrement et travailler ensemble.
Voilà, l'échange est fondamental.
Oui.
Le rapport met aussi en avant l'importance de la connaissance des flux et du partage de données. Mmh. Les villes disposent-elles aujourd'hui des outils nécessaires pour piloter efficacement leur logistique urbaine?
Peu. C'est compliqué, effectivement. On a un gros enjeu d'accès à la donnée. Il y a plein d'accès à la donnée qui est compliqué. Du point de vue des transporteurs, par exemple, l'accès aux arrêtés de circulation, c'est très compliqué. Les arrêtés de circulation, c'est une compétence municipale. Donc, dans une métropole ou une grosse agglo, on en a plusieurs dizaines des communes qui ont toutes leurs propres arrêtés de circulation, qu'elles ont faites chacune de façon autonome, parce que c'est leur compétence. Parfois, elles se concertent entre elles pour les élaborer ou pour les transformer. Parfois pas.
Bon.
Donc arriver à tenir compte de tout, mais arriver à récupérer l'information. Rarement ces arrêtés sont numérisés. Souvent ils ont été faits il y a longtemps, à une époque où on ne numérisait pas. Donc déjà rien que cet accès à la donnée-là, il est compliqué. Et on a besoin aussi d'éléments pour mesurer, identifier les flux. Et ça c'est assez lourd. Il existe des enquêtes. L'Eurométropole de Strasbourg en avait fait une il y a une bonne douzaine d'années. Ça a été un truc très très intéressant et très riche, mais hyper lourd. Des questionnaires administrés pendant des mois à des entreprises pour récupérer des données, tout consolider. Enfin, c'était un boulot énorme. Et dans ces cas-là, ça bouge très très vite, on a à peine fini l'étude qu'on sait déjà qu'elle est périmée. Alors elle donne des éléments, mais on ne peut pas se permettre de refaire à tout bout de champ des études aussi lourdes. Donc aujourd'hui, le numérique peut nous permettre d'avoir des choses plus intéressantes, tout en respectant les confidentialités de données nécessaires. Mais par exemple, on a testé à Strasbourg, avec des systèmes de caméras embarqués à des endroits clés, de pouvoir observer des flux. Il ne s'agit pas de chercher les plaques d'immatriculation, on s'en fiche, mais de voir combien de véhicules passent, et parmi ces véhicules, d'identifier les véhicules utilitaires correspondant à des marchandises, d'identifier à des endroits clés de livraison les temps d'occupation des places de livraison. Voilà, le numérique peut nous amener des ressources, et ça, c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, pour revenir à la réponse à votre question, non, on n'a pas tous les outils pour piloter et voilà, on le sait bien, quand on pilote pas bien quelque chose, c'est compliqué.
Donc il y a urgence à avancer sur ce sujet-là aussi. Alors si les recommandations du rapport étaient pleinement appliquées, à quoi ressemblerait selon vous une logistique urbaine réussie si on se projette en 2035, dans 10 ans? Est-ce qu'il y aurait moins de camions, davantage de mutualisation, plus de proximité, davantage de multimodalité, tous ces éléments que vous évoquez dans ce rapport?
Eh ben, j'espère bien qu'il y aura un petit peu de tout ce que vous venez de dire, en effet, en tout cas qu'il y aura eu et qu'il y aura toujours de la concertation qui permette de définir ensemble sur un territoire les meilleurs équilibres possibles. Chaque mode de transport a sa propre zone de pertinence. Je ne suis pas une hérétique autour du il faut chasser les camions de la ville. Il y a des types de livraison pour lesquels le camion est ce qu'il y a de mieux. Un supermarché de ville qui tourne bien, eh bien c'est l'équivalent d'un semi-remorque tous les jours. Donc il vaut mieux qu'il y ait une fois un semi-remorque qui passe, qui déchargent et qui repartent et qui ensuite laissent l'espace désencombré. Et pour d'autres types de livraison, évidemment, le vélo cargo va être mieux ou le petit vul, etc. L'utilisation du fluvial en mutuel. Ouais. En fait, il n'y a pas de solution unique qui va s'appliquer. Toutes les villes ont des conformations différentes, ont des types de flux différents. Et donc, pour moi, une logistique urbaine rêvée à horizon 2035, c'est qu'elle a réussi à contribuer à l'apaisement de l'espace urbain, à l'amélioration de la qualité de l'air, à la diminution du bruit, à la diminution de l'accidentologie, à la diminution de l'énervement qu'il y a parfois dans les villes parce que vroom, y a un vélo qui passe à toute berzingue sans regarder, que les piétons ont l'impression d'être méprisés, que les vélos ont l'impression d'être méprisés, que les voitures que chacun a l'impression qu'il n'est pas pris en compte, que tout le monde se sent pris en compte dans ce qu'il fait parce qu'il aura eu aussi l'occasion de s'exprimer dans les concertations et de comprendre le point de vue du voisin, et qu'on ait in fine une logistique qui tourne, c'est-à-dire qui permette toujours que les magasins soient approvisionnés, que tout soit approvisionné, que les choses fonctionnent, mais que chacun comprenne un peu mieux le fonctionnement global et puisse s'exprimer, entendre les autres, et qu'on soit dans un climat d'apaisement à tous les sens du terme.
Pour terminer, Marie-Jean, vous avez été élue locale, on l'a dit, vous avez travaillé, vous nous l'avez dit, sur ces sujets au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. Quel message pourriez-vous adresser aux maires, aux présidents d'intercommunalités qui sont venus, qui sont présents encore ici à Drive to Zero, pour qu'ils considèrent la logistique comme une compétence stratégique de leur territoire?
Moi, j'ai envie de leur dire, saisissez-vous-en. Parce qu'effectivement, tous les sujets à la croisée desquels se trouve la logistique urbaine sont des sujets extrêmement importants et sensibles pour lesquels travailler aussi sous l'angle de la logistique urbaine amène des vraies réponses. Le foncier, c'est hyper tendu. On ne va pas résoudre les tensions du foncier si on continue d'éliminer les questions de logistique. Au contraire, on va compliquer les choses. La gestion des chantiers urbains est quelque chose de compliqué. Si on ne pense pas la logistique en amont des chantiers, on va se compliquer la vie. Beaucoup de collectivités ont pris conscience des questions de qualité de l'air pour leurs habitants. Si elles oublient la logistique urbaine et qu'elles travaillent que sur d'autres modes de déplacement des particuliers, elles oublient un bout du sujet. Donc, saisissez-vous-en. Vous allez vous en sentir bien parce que vous verrez qu'il y a du résultat. Et en plus, j'ai vraiment envie de dire que quelque chose de gratifiant dans ce domaine, c'est qu'en fait, les acteurs, dès lors qu'on les écoute, sont réellement collaborants. C'est pas toujours facile de travailler avec les citoyens. Les citoyens sont pleins de contradictions. Ils sont tous différents. Ils ont tous des enjeux différents. Sur ce sujet de la logistique urbaine, les acteurs économiques, ils sont plutôt en phase les uns avec les autres. Ils n'ont pas tous les mêmes enjeux, mais ils sont plutôt en phase les uns avec les autres. On l'a vu encore dans notre rapport. Sur le diagnostic, ils sont globalement OK. Donc finalement, il n'y a plus qu'à se mettre autour de la table pour travailler ensemble et on sort des choses qui donnent satisfaction et qui permettent d'améliorer les choses.
Voilà, et pour les améliorer, il y a effectivement ce rapport, le rapport LUD, Logistique Urbaine Durable, que vous avez copiloté. Merci Anne-Marie-Jean d'être venue nous en parler aujourd'hui sur Radio Immo et Radio Territoria. Merci beaucoup.
Merci.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.